C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas.
Fort et reclus.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fort et Reclus à l'Élysée. Aujourd'hui, pour faire suite à deux émissions qu'on a faites il y a quelques temps pour parler des démêlés de Radio Allègre avec TDF et pour parler en écho aux 30 ans des radios associatives avec Jean-François Galotte de l'histoire de Carbone 14 et de l'état un peu de la liberté d'expression aujourd'hui, on est avec Dominique Vasseur.
Bonjour.
Bonjour. Pour parler des radios associatives et un peu du paysage radiophonique, des radios qu'on a pu appeler libres à un moment.
Oui, ouais. Il y a longtemps déjà, 30 ans.
Qu'est-ce que tu peux te présenter peut-être ?
Eh bien, donc je m'appelle Dominique Vasseur, je suis dans le monde de la radio associative depuis 82, on va dire, puisque avec d'autres, j'ai créé une radio dans l'Oise qui s'appelle Radio Valois-Mulsien, RVM, qui a commencé à émettre un peu plus tard parce qu'on a eu énormément de difficultés à monter un site d'émission. Donc elle a commencé à émettre en 85 seulement. Et je me suis intéressé assez rapidement au regroupement de radios. Donc j'ai assisté aux réunions qui étaient organisées au niveau fédéral, ce qui m'a permis de connaître assez bien maintenant, puisque je n'ai jamais quitté ce secteur, le monde de la radio associative.
Tu fais un peu le rôle de l'expert en... dans ce domaine-là.
Alors aujourd'hui, je suis travailleuse indépendante et j'interviens auprès de radios associatives un peu partout en France dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, le DLA. C'est un dispositif national qui a des ramifications sur tout le territoire et il y a une structure qui... DLA, du dispositif local, dans chaque département. Des fois, il y en a même deux. Enfin, en général, il y en a une. Et ce dispositif permet aux structures de l'économie sociale et solidaire d'être accompagnées quand elles ont des problématiques à résoudre en termes de gestion, de ressources humaines, de financement, etc. Donc, principalement, ce sont les associations qui ont recours à ce dispositif, qui est en Dordogne financé par l'État, par la Caisse des dépôts et consignations et par le Fonds social européen, le FSE. Dans d'autres départements, dans d'autres régions, il peut être aussi financé par les collectivités territoriales, par la région, par le département, par exemple.
En intervenant auprès des associations radio...
Voilà, moi j'interviens essentiellement auprès d'associations radio, effectivement.
C'est dans la loi, c'est les associations qui proposent un service de radiodiffusion remplissant une mission
de communication
sociale de proximité.
Ça, c'est la loi, effectivement, de 1986 qui a été modifiée notamment en 2000. Puisque c'est en 2000 seulement que cette mission de communication sociale de proximité a été définie dans la loi. C'est vrai qu'il faut revenir un peu à la création des radios, à la libération des ondes en 81, où là, toutes les radios, en fait, étaient associatives. En termes de structure, tout était géré par des associations, loi 1901, et la publicité était interdite. Elle n'a été autorisée que quelques années après, je crois que c'était en 86. Et là, il y a eu une séparation du secteur des radios, c'est-à-dire que certaines ont continué en devenant commerciales et d'autres sont restées esprit associatif, non lucratif, s'engageaient à, enfin, ne devaient pas faire de publicité au départ. Et moyennant ça, elles obtenaient une subvention de l'État, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui existe encore aujourd'hui et qui, en fait, est un dispositif assez remarquable qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc, après, il y a eu une disposition qui est intervenue pour autoriser les radios associatives à faire un petit peu de publicité, c'est-à-dire pas plus de 20% de leur chiffre d'affaires en ressources publicitaires à l'antenne. Et ça, c'était au début, à la fin des années 80, ça devait être 89, il me semble. Et depuis, c'est toujours les mêmes règles qui subsistent, c'est-à-dire que les radios associatives non commerciales peuvent vivre aujourd'hui, enfin peuvent vivre, obtiennent une subvention de l'État dans la mesure où elles ne dépassent pas les 20% de recettes publicitaires.
D'accord, oui. Ça, c'est pour le côté économique. Et pour le côté organisationnel, on va dire, c'est-à-dire que en 81, les radios, elles sont pirates. Au moment du passage du monopole d'État à la libéralisation, et il y a une petite période avant que l'émission radiophonique soit sujette à autorisation. Et donc il y a le CSA qui vient réguler tout ça et contrôler tout ça.
Oui, aujourd'hui il y a le CSA. Au départ, il n'existait pas. Hein. C'était la haute autorité à l'audiovisuel. Après, il y a eu la Commission nationale communication et liberté, la CNCL. Et puis après, depuis 91, je crois, le CSA. Vous avez dû en parler lors des précédentes émissions sur les 30 ans, j'imagine. Ça a commencé par des radios appelées pirates parce que l'État avait un monopole de la radiodiffusion. Donc tout ce qui allait... les radios ne pouvaient pas être autorisées en France. On se souvient quand même que les périphériques, genre Europe 1 et RTL, étaient obligés d'émettre dans des pays limitrophes, en Allemagne pour Europe et puis au Luxembourg pour RTL. Donc il n'y avait pas de possibilité d'émettre d'autres programmes en France à partir du territoire français avant la loi de 82. Donc il y a eu aussi dans les années... Même à la fin des années 60, hein, à partir de 68, je crois que 69, il y avait des radios pirates déjà en France. Toute la décennie 70, il y a eu la création de radios dites pirates, qui ont été plus ou moins, qui étaient interdites, mais pourchassées. Enfin, il y avait des... Elle changeait tous les soirs de lieu d'émission pour ne pas se faire attraper.
Est-ce qu'il y a encore une trace de cette histoire-là aujourd'hui ?
Les radios pirates ? Une trace comment ?
Enfin, une filiation par rapport à des choses qui existent aujourd'hui ? Ou vraiment l'acte de naissance, c'est 81, quoi ?
Je pense qu'il y a quand même, en tout cas, au début de la libération des ondes, il y avait pas mal de radios qui étaient dans la continuité des radios pirates. Il y a encore des radios qui existent, qui ont été créées à la fin des années 60. Je pense à Radio Campus Lille, qui doit être l'une des plus anciennes radios encore en vie. Ça fait plus de 40 ans, hein. si on compte la période pirate, dans l'esprit, forcément, il reste quelque chose dans ces radios-là. Mais enfin, je pense qu'elles sont quand même ne sont pas nombreuses. Hein. Beaucoup ont quand même été créées d'une façon légale à partir de 82.
On va écouter René Binamé avec Ceausescu. Écoutez Forêt Reclus à l'Élysée. On est avec Dominique Vasseur pour parler des radios associatives. Donc on parlait du cadre institutionnel et du cadre juridique des radios associatives. On parlait des radios pirates des années 70 et du moment de l'arrivée de François Mitterrand et de la libéralisation des ondes. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que sont devenues les radios qui sont nées à ce moment-là, un petit coup d'œil comme ça sur l'évolution de ces radios.
Oui, alors au début des années 80, on estime à 1000 radios autorisées autour des années, enfin 84-85. Je rigole hein, parce que le technicien vient nous faire des réglages de micro en direct. Ça va aller, monsieur Fabrice ? Ça devrait aller. Alors, 800 à 1000 radios en 84. J'ai essayé de regarder celles que je connaissais pour être encore en activité aujourd'hui. J'en ai listé, alors encore en activité aujourd'hui et toujours associative. Hein. J'en ai trouvé au moins une centaine et toute la, je n'avais pas la liste complète en fait. Donc il y en a au moins une centaine qui sont toujours associatives et qui existent en 2012. Maintenant, est-ce qu'elles ont conservé leurs objectifs initiaux, leurs idéaux initiaux, leurs valeurs initiales? Ça, je ne les connais pas suffisamment pour le dire. Les radios ont forcément évolué parce que le monde autour d'elles a aussi évolué. Donc, c'est encore heureux si qu'elles ne soient pas restées bloquées en 80. Mais c'est une critique que l'on entend souvent, hein, que les radios associatives ont perdu cette âme du début des années 80. Moi, je suis assez partagé là-dessus. C'est compliqué de le dire. Je ne suis pas persuadé. Bon, il y en a certaines qui ont dû conserver effectivement leurs objectifs de départ, quelques-unes, c'est certain. Les autres ont quand même été pour la plupart confrontés à des soucis financiers. Parce que quand on a un projet, ben il faut le financer. Si le projet est ambitieux, il faut d'autant plus de financement, et c'est souvent ce qui a bloqué. C'est-à-dire que quand on a une activité radiophonique, quand on n'a pas d'argent, eh ben on n'a pas de salariés. Quand on n'a pas de salariés ou qu'on n'en a pas assez, souvent on a moins de bénévoles aussi parce que ce sont les salariés qui permettent de soutenir le bénévolat et le développement du bénévolat. Donc on a besoin d'un minimum de fonds pour mener à bien un projet. Donc un projet, c'est concevoir des programmes, les fabriquer et les diffuser. Si on a moins d'argent, eh ben on diffuse de la musique, quoi. Et on le reproche souvent, c'est de dire beaucoup de radios associatives sont devenues des robinets à musique ou alors ressemblent trop aux autres stations de radio commerciales. Parce que aussi dans l'imaginaire du public, la radio, c'est chacun a sa représentation de la radio, hein. Ça peut être une radio du service public, je sais pas, France Inter ou Europe ou RTL, et on pense que ce schéma-là doit être et le schéma de la radio, quoi, et que les radios associatives doivent y ressembler pour être écoutées. Alors que les radios associatives ont des missions beaucoup plus locales d'abord, vraiment de proximité, c'est la mission qui est confiée, de proximité sociale. Donc il y a un rapport au territoire et à chaque habitant du territoire qui est complètement différent. La radio associative a un rôle, je pense, d'éducation populaire quelque part, et elle permet de créer du lien social, ce qui n'est pas forcément le rôle d'une radio nationale.
Ça me renvoie au slogan de la radio là, qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.
Radio sans droit, oui.
Donc voilà, c'est ce rôle d'éducation populaire, ce rôle démocratique, on pourrait dire, d'expression
citoyenne.
Voilà.
Aussi.
Comme contre-exemple de ce que tu disais, j'ai Radio Canu en tête qui fonctionne toujours sans salarié.
Tout à fait.
Mais c'est peut-être une exception.
C'est une des rares, hein. Oui, je crois qu'il y en a. Je ne sais même pas si Radio Libertaire à Paris n'a pas. Il me semble qu'ils ont des salariés. Enfin, très peu, mais Radio Canu, c'est vrai que depuis le départ, ils ont toujours, pour des raisons philosophiques, refuser d'avoir des salariés. Donc il y a une centaine ou 200 bénévoles Et leur, alors ils vivent avec un budget relativement faible par rapport à d'autres radios. Mais bah c'est vrai qu'ils se sont aussi posé la question de savoir s'ils allaient solliciter des subventions. Hein, là, ils ont quand même le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et après, c'est quasi exclusivement des cotisations des membres. Mais les membres payent une cotisation mensuelle, hein, qui doit être de l'ordre de des cotisations annuelles payées par d'autres membres dans d'autres radios. Ça doit être autour de 20 euros par mois. Voilà, mais c'est accepté, c'est voulu par les membres de cette association.
C'est un moyen d'autofinancement. On rappelle que Radio Canu est sur Lyon.
Oui.
C'est un moyen d'autofinancement.
Et c'est une radio qu'on peut qualifier de libertaire. Hein, qui est, donc ils ont, grâce à ça, ils ont une indépendance. Hein, une indépendance éditoriale qui leur permet de... d'être critique, de concevoir un programme comme il le souhaite. Et qui est une radio très connue et écoutée, bien sûr.
Et donc indépendance, malgré tout, dans le cadre français, dans le cadre un peu centralisé, comme on l'a vu, comme tu nous l'as expliqué au début, de ces lois et de l'existence du FSER par lequel il faut forcément passer
Non. Le FSER, c'est pas une obligation, c'est un financement. Je pense que c'est...
Je veux dire, il faut forcément passer économiquement, c'est peut-être un passage obligé pour survivre.
Oui, mais bon, c'est un choix. Je pense que le FSER, c'est une liberté quand même, plus qu'une contrainte. Hein. Parce qu'il n'y a pas le modèle, le système, le dispositif du fonds de soutien permet de recevoir une subvention uniquement sur par rapport aux critères. Enfin, il faut rendre des comptes, c'est-à-dire notamment il faut donner ces documents comptables, il faut avoir un expert comptable, c'est à peu près la seule contrainte. Et le montant de la subvention, il est calculé sur les produits qui ont été réalisés l'année précédente. Donc il n'y a pas de notion de qualité de programme, de nombre d'heures produites ou autre. C'est uniquement un critère de taille de l'association, quoi, grosso modo, qui permet de recevoir une subvention. Donc je pense que c'est quelque chose qui assoit l'indépendance. Par contre, au niveau CSA, autorisation, là, c'est un cadre juridique obligatoire. C'est-à-dire que si on ne passe pas par la procédure de demande d'autorisation, puisque les fréquences qui sont allouées en modulation de fréquence, c'est un bien d'État, de l'État, qui le prête aux opérateurs radiophoniques. Donc il y a toute une procédure pour avoir ces autorisations d'émettre. Là, c'est un cadre très strict.
Et qu'en est-il du critère du nombre d'auditeurs et de l'audience de la radio par rapport au FSER, par rapport au CSA ?
Et là, il n'y en a pas réellement. FSER, il n'y en a pas du tout. Le CSA, quand il autorise une radio, doit s'assurer de sa viabilité économique. Donc, tout dépend du projet radiophonique, c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir une autorisation qui est accordée à un foyer socio-éducatif dans un lycée, mais qui va émettre pour la zone du lycée, quoi, peut-être pour une dizaine de communes autour. Donc il y a pas le projet est pas le même qu'une radio rock dans une grande agglomération étudiante, par exemple. Donc la viabilité économique, elle dépend du projet radiophonique. C'est pas... voilà, il y a des choix. Le CSA va faire des choix, va vérifier ça, va s'assurer, normalement la loi l'oblige à s'assurer qu'il donne des autorisations à des opérateurs différents pour proposer un pluralisme, enfin un choix de programme aux auditeurs d'une même zone. Voilà, il a quelques contraintes aussi, le CSA.
D'accord. On va peut-être faire une pause musicale et on continue à parler de tout ça.
I don't aus und auf dem blauen Meer erklingt ein Lied von Wiederkehr, ein Lied vom Leben. Matrosen singen es zur Stunde, da sie den Freund im Meeresgrund tot übergeben. In einem Tuch aus Lein ruht er schön und hört leis weiße Flügel gehen in blauen Fernen. Ein Lächeln schmückt ihn, wo er liegt, das ist die Seele, denn sie fliegt nicht zu den Sternen. Und sein Leichnam ruft ein Lied, das lockend über Klippen zieht, wie Wind und Wellen. Sie vom Schreien erzählen, unsere Flügel sind die Seelen der Matrosen. Schönes Himmel sank wie ein Stein in die tiefe Flut hinein, sich zu vereinen mit allen, die an ihn gedacht und die in ferner stiller Nacht leise um ihn weinen.
Sur Radio Périgueux 103, 102.3 FM sur la zone de Périgueux et alentour, sur Radio Plaisance 95.9 en Périgord Nord, radiopérigueux103.com sur Internet et l'audioblog de l'émission sur Arte Radio, Forêt Reclus à l'Élysée. On est avec Dominique Vasseur pour parler des radios associatives. On pourrait peut-être évoquer les fédérations de radio et la mutualisation des programmes, le regroupement des radios et la dynamique que ça peut créer.
Oui, alors il y a quelques fédérations de radio, notamment régionales, qui se sont créées. Il y a eu différentes époques aussi. Hein. Certaines sont datent du début quasiment des années 86-88, mais surtout depuis que les conseils régionaux ont la possibilité de subventionner les radios, certaines ont monté des projets de coproduction radiophonique en partenariat avec les régions. C'est assez intéressant parce que, d'une part, ça permet aux radios de travailler ensemble, donc c'est toujours très intéressant et très riche d'échanger des expériences, des méthodes de travail, mais aussi surtout ça permet à certaines radios d'améliorer la qualité de leur production, parce que là les exigences du coup sont souvent vues un peu à la hausse, en tout cas au niveau des meilleurs des radios, on va dire, si on peut parler de meilleurs en termes de qualité de production sonore, et qui entraîne celles qui ont moins d'expérience avec elles. Donc on arrive à améliorer tout ça. Il y a des projets, enfin il y a eu des réalisations sur collectives sur par exemple la mémoire orale, le patrimoine immatériel. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, la Fédération de Languedoc-Roussillon a pu réaliser des séries sur l'histoire de la mine en Languedoc-Roussillon, des séries radiophoniques, je ne sais plus combien il y avait d'épisodes, peut-être une vingtaine, de 20 minutes, qui a ensuite fait l'objet de coffrets de CD qui ont été distribués dans les lycées de la région, dans les bibliothèques, gratuitement, hein, c'est pas vendu. Et aussi une autre série sur l'histoire des républicains espagnols habitant dans le Languedoc-Roussillon. Donc c'est de la collecte de la mémoire, en fait, hein, qui est ensuite monté en, en série radiophonique. Dans le nord de la France, c'est un peu pareil. Il y a des, enfin, c'est pas tout à fait au niveau de la création radiophonique, ça démarre, mais il y a aussi des échanges entre les radios de la fédération. Là, elles sont une bonne dizaine à travailler ensemble dans le nord. Languedoc-Roussillon, c'est plus de 20 radios qui travaillent ensemble, ce qui est quand même considérable. Voilà, je n'ai pas de connaissances, d'expérience en Aquitaine, mais enfin, il y a aussi une fédération. Je ne sais pas si elle est à ce niveau. Je crois qu'elle est encore en train de discuter avec le conseil régional, en fait, chaque fédération a avancé à son rythme aussi en fonction de la rapidité de la réponse du conseil régional, hein, sur l'intérêt que la collectivité peut avoir vis-à-vis des radios associatives.
Est-ce que tu peux nous parler du rôle de la Confédération nationale, si ça existe ?
Eh ben, il y a plusieurs fédérations nationales. Il y en a deux qui regroupent pas mal de radios. Il y a la Confédération nationale des radios associatives qui regroupe, elle, les fédérations régionales, en fait. Il y a le Syndicat national des radios libres, le SNRL, qui succède à la CNRL. En fait, il y a eu des échanges entre les deux organismes. Il y en a un qui était féminin, qui est devenu masculin et inversement dans les termes. Le SNRL est plus syndicat, est devenu un syndicat. Et la CNRA est une confédération qui regroupe des fédérations locales, enfin régionales ou départementales. À côté de ça, il y a des fédérations nationales thématiques ou comme la FERAROC, qui regroupe une vingtaine de radios à travers la France et dont Périgueux 103. Il y a maintenant Radio Campus France qui regroupe les radios campus, comme son nom l'indique. Avant, ça s'appelait IASTAR, mais ça a changé là assez récemment. Donc, c'est devenu Radio Campus France. Et après, il y a des fédérations nationales plutôt confessionnelles, comme la Fédération française des radios chrétiennes, la FFRC. Il y a RCF, qui est Radio chrétienne en France, et il y a aussi l'association des radios juives. Voilà, c'est à peu près au niveau national, c'est à peu près tout. J'espère ne pas en oublier. Au niveau international, il y a la MARC, qui est l'association des radios communautaires. Au niveau là vraiment international.
Il y a un rôle par rapport au pouvoir public de ces
Alors, fédérations. Au niveau national, oui, les principaux partenaires, ben, sont le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour tout ce qui est autorisation, législation, etc. Le contrôle des programmes, enfin. Il faut savoir que le CSA a des antennes, hein, régionales. Alors, ça correspond pas exactement au territoire des régions, qu'on appelle les CTA, les comités techniques audiovisuels. Alors, en Aquitaine, c'est le CTA de Bordeaux. Je ne sais pas s'il dépasse. Je crois qu'il dépasse l'Aquitaine, puisqu'il doit y avoir les deux Charentes aussi qui sont sur le territoire de ce CTA. Donc il y en a, je ne sais plus exactement, une douzaine ou quinze en France qui dépendent du CSA. Ce sont des ramifications du CSA locales. Donc dans chaque comité, il y a un technicien, par exemple, qui peut être amené à venir contrôler l'installation d'une radio. Les fédérations nationales ont des contacts permanents avec le CSA et avec le ministère de la Culture, qui est la tutelle, en fait, du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Puis après, il y a tous les partenaires nationaux que sont la SACEM, parce que les radios comme payent une redevance SACEM pour la diffusion des œuvres. La SPRE aussi, c'est encore un autre organisme de droit d'auteur. Il y a toutes les organisations après liées à l'emploi. Il y a par exemple l'AFDAS qui est l'organisme paritaire qui va payer la formation des salariés en radio. Il y a la convention collective de la radiodiffusion, donc il y a des négociations aussi à ce niveau-là. Enfin bon, il y a énormément de partenaires au niveau national avec qui il faut entretenir des liens.
Mmh, mmh. C'est tout ce qui est administratif et bureaucratique, on pourrait dire, à la limite.
Ben oui, c'est un des soucis auxquels sont confrontées les radios associatives, c'est que quand même, les dirigeants, même s'il y a des salariés, les dirigeants des radios sont bénévoles et on leur demande de plus en plus de technicité en termes administratifs. Ça devient vraiment très très lourd. Enfin, ça n'a jamais cessé d'exister, mais souvent, enfin, on voit bien comment ça se passe même dans d'autres secteurs. Avant, il y avait par exemple, je sais pas, un formulaire de 2 pages. Maintenant, il va en faire 4, et il va être de plus en plus compliqué à remplir. Enfin, et vu le nombre de quand même d'obligations auxquelles sont confrontées les radios, ben ça devient vraiment très très lourd. Hein, parce que donc il y a, par exemple, le CSA, la radio est autorisée pour 5 ans. Au bout de 5 ans. Il y a une reconduction qu'on appelle automatique, mais il y a quand même un dossier à remplir. Et au bout de 15 ans, là, c'est carrément une nouvelle démarche. On repart à zéro avec un appel à candidature générale. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà très, très lourd dans la vie des radios. Mm-hmm. Le fonds de soutien, bah, c'est un dossier quand même tous les ans qui est assez important. Après, ben il y a toujours ce qu'on évoquait tout à l'heure, la SACEM, quand il y a des salariés, ben toutes les démarches liées à l'emploi, aux cotisations sociales, etc. Ça, comme toute entreprise. Hein. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a aussi tous les soucis techniques.
Justement, à propos de soucis techniques, enfin, ce qui est présenté comme ça, comme une nouvelle technologie, c'est l'arrivée d'une nouvelle norme qui serait la radio numérique terrestre, qui avait été lancée il y a quelques années, qui est un peu en sommeil, qui va peut-être arriver sous une nouvelle forme.
C'est possible. Enfin, forme norme peut-être, oui, parce que semble-t-il qu'il y aurait plusieurs normes possibles en France, parce que celle qui avait été imposée par le gouvernement à l'époque était utilisée, je crois, qu'en Corée du Sud, et donc ça aurait posé des problèmes, puisque pour recevoir la radio numérique terrestre, c'est le pendant de la télévision numérique terrestre, hein, sauf que... Bon là, la radio, elle est écoutée essentiellement en voiture, donc mobile. Donc ça veut dire que les postes pour recevoir les postes numériques, donc devront être changés. Le parc d'ailleurs de postes de récepteurs de radio en France est énorme. Hein. Je ne sais plus combien c'est par foyer. Je crois qu'en moyenne, il y en a 3 ou 4 par foyer, voire plus, ce qui est considérable. Donc il y a cette si on veut recevoir la radio numérique, il faudra changer de poste. Donc c'est un enjeu économique énorme.
Et aussi au niveau des radios elles-mêmes, le passage à cette norme-là de diffusion entraînerait beaucoup de bouleversements et un coût forcément.
Alors sur le coup, on ne sait plus, parce que en fait, comme donc la première norme était forcément très coûteuse, parce que norme plus adaptée à la vidéo en réalité, donc qui permettait de pour ceux qui ne ne comprennent pas la vente, enfin, ce que va induire la radio numérique TRS, c'est que, par exemple, on aura des données associées sur qui vont apparaître sur le poste de radio. Des données associées, c'est la météo en temps direct, par exemple, qui va défiler en bande sur le, voilà. Ou des images, la photo du chanteur qu'on entend en même temps. Bon, ça finit. Enfin, certains se posent la question, est-ce que c'est toujours de la radio d'avoir des images du chanteur en même temps? Ça devient un peu de la télé quelque part, hein, quand même. Mais bon, donc ceci dit, il y aurait d'autres normes moins coûteuses, là où il y aurait peut-être moins de facilité de données associées, ou même pas du tout. Mais du coup, ça deviendrait beaucoup moins cher. Mais beaucoup, beaucoup moins cher. Après, ce qui coûtait cher aussi, c'était ce qui coûte cher, c'est le multiplexage de plusieurs programmes de radio, donc de plusieurs stations de radio qui vont se regrouper dans certaines zones, mais forcément urbanisées. Enfin, dans un premier temps, ça va surtout concerner les grosses agglomérations, pour pouvoir émettre à partir d'un même site. Et c'est cette obligation-là de se regrouper par pôle, j'ai perdu le nom d'ailleurs, multiplexage, qui est imposé actuellement et qui risque de coûter très cher. Et surtout, ce qui risque de coûter très cher, c'est d'avoir à émettre en parallèle, en modulation de fréquence analogique comme aujourd'hui, et en numérique pendant un certain nombre de temps qu'on ne connaît pas, peut-être un an, peut-être deux ans, avant que, en attendant que tous les auditeurs puissent s'équiper. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc ça, ce qui est reproché, c'est ça, c'est le fait d'avoir à diffuser sur ces deux mode enfin analogique et en numérique en parallèle pendant assez longtemps. Mais en réalité, personne ne sait vraiment le coût réel de tout ça, quoi.
Et en fait, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est décidé à l'heure actuelle, quoi.
Pas vraiment, non. Il y a des expérimentations un peu partout. Personnellement, je vois mal comment, par exemple, Radio Plaisance va émettre en numérique, quoi, à partir de son site, là. Alors, si on lui dit Radio Plaisance, vous allez être obligé d'avoir votre site à Bordeaux, quel est l'intérêt des, enfin, je vois pas bien. Donc, j'attends.
Très bien. On va faire une dernière pause musicale. Un petit morceau pour Fabrice et tous les musiciens.
Je veux rentrer chez moi, j'en ai assez. Elle est où ma loge? Encore des scas festifs en première partie. Elle est où ma loge? Le chien de Patricia casse, me lèche le nez. Elle est où ma loge? Parfois je mériterais le pied de Dieu dans le cul. Elle est où ma loge? Je suis tout seul. Elle est où ma loge? Je suis perdu. Elle est où ma loge? Elle est où ma loge? Elle est où ma loge? Y'en a qui sont cachés dans les buissons. Elle est où ma loge? J'oublie toujours le nom du roi des Belges. Elle est où ma loge? Pourquoi on joue jamais au bord de la mer? Elle est où ma loge? Je mériterais le pied de Dieu dans le cul. Mais elle est où ma loge? Je suis tout seul. Elle est où ma loge? Je suis perdu. Allez. Elle est où ma loge? Jean-Luc Le Téniac, il veut plus me parler. Elle est où ma loge? Il va falloir se payer la balance de Dionysos. Elle est où ma loge? On m'a refilé un vélo crevé. Elle est où ma loge? Je mériterai le pied de Dieu dans le cul. Mais elle est où ma loge? Je suis tout seul. Elle est où ma loge? Je suis perdu. Elle est où ma loge? Ah, elle est où ma loge? Bon ours, elle est où ma loge? Elle est où ma loge? Elle est où ma loge?
Vous écoutez Forêt Reclus à l'Élysée avec Dominique Vasseur pour nous parler des radios associatives et de leurs conditions d'émission. Et peut-être pour conclure, on pourrait évoquer les perspectives et les difficultés ou les enjeux peut-être politiques ou économiques de développement au niveau de cette liberté d'expression radiophonique.
Oui.
Enfin, c'est un sujet, c'est assez vaste, c'est pas une question précise, mais
Je sais pas si... déjà, dire que souvent les dirigeants de radio associatives ont la crainte de perdre les financements. Donc au niveau fonds de soutien, a priori, il n'y a pas de volonté politique de le supprimer, au contraire. Par contre, ça sera sûrement plus compliqué de demander à ce qu'il soit augmenté. Mais en tout cas, au niveau actuel, je pense qu'il y en a encore pour quelques années, en tout cas. Il faut savoir que le fonds de soutien doit être validé par l'Europe. Parce que c'est une aide de l'État envers des structures, des entreprises, entre guillemets, les radios associatives, qui peuvent être considérées comme étant en concurrence avec des radios commerciales, donc du même secteur d'activité. Et comme on le sait, la concurrence est quelque chose qui est quand même qui a été porté au nu par l'Europe. Donc, pour que l'État ne rompe pas cette possible concurrence, il faut une dérogation de l'Europe pour qu'il puisse verser des aides aux radios associatives, en considérant que, effectivement, elles sont dans un cadre particulier, qui est la communication sociale de proximité. C'est donc qu'elles répondent à des missions d'intérêt général. Et dans ce cadre-là, l'État peut aider les radios. Donc ça, c'est à peu près acquis pour quelques années. Peut-être qu'il faudra que l'Europe se reprononce dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas exactement. Mais enfin bon, là, pour l'instant, c'est à peu près assuré. Alors, après, il faut que les radios elles-mêmes qui souhaitent conserver et avoir la possibilité de donner la parole aux citoyens, avoir cette liberté d'expression, mais c'est à elles aussi de se donner les moyens, les moyens humains, techniques, de s'autoriser à le faire aussi, parce que la question qui peut être posée, à laquelle les radios peuvent être confrontées assez régulièrement, c'est la question de l'indépendance quand même. Dès l'instant où on sollicite des financements, notamment locaux, on peut être amené à subir quelques pressions des personnes qui vont financer. C'est un peu dans la logique des choses. Donc, c'est aux radios à s'organiser pour éviter, pour savoir déjà ce qu'elles veulent faire comme programme, est-ce qu'elles veulent effectivement participer à la libre expression des idées, des cultures, et dans ce cas, il faut arriver à trouver des partenaires qui sont favorables aux objectifs qu'elle va définir. Donc, pour moi, compte tenu du fait que le FSER est quand même le noyau du financement des radios, ça suffit pas, mais c'est déjà quand même quelque chose là qui permet l'indépendance, parce qu'il n'y a pas de pression du FSER. Après, c'est à chaque radio d'essayer de s'organiser, de trouver l'énergie pour bien asseoir son propre projet, parce que en fait, ce que j'ai pas dit, mais il y a entre 650 et 700, on sait pas exactement le nombre de radios associatives en France, y compris dans les départements d'outre-mer. 650-700, c'est quand même pas mal, mais je suis pas sûr qu'il y en ait deux qui se ressemblent vraiment, quoi. Il y a quasiment autant de projets. À part, bon, certaines qui sont un peu en réseau, comme par exemple le réseau des radios chrétiennes en France, mais même d'une région à une autre, il y a des particularismes forts. Donc ce sont à chaque fois des projets très particuliers, très personnels. Mais il faut que les radios arrivent à le porter jusqu'au bout, à ne pas se décourager, parce que c'est ça souvent le risque. Les dirigeants bénévoles qui sont confrontés à des tâches administratives souvent rébarbatives, alors que quand ils ont rejoint les projets de radio, bah c'était pour faire de la radio, ou en tout cas pour donner la possibilité à d'autres d'en faire, ils ont tendance quand même à se lasser.
Il y a peut-être une dynamique à créer en interne, en fait. Au niveau d'un projet de radio, il y a peut-être des gens qui sont là, qui se croisent et qui ne fonctionnent pas forcément tous ensemble dans le même sens, en portant vraiment le projet de la radio collectivement, quoi. Il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Je ne sais pas si tu as des exemples ou des réflexions là-dessus.
C'est vrai que les bénévoles, les animateurs bénévoles qui œuvrent dans des radios associatives, souvent ne se connaissent pas toujours les uns les autres, parce qu'ils vont venir à un créneau horaire particulier, ils vont éventuellement connaître ceux qui viennent avant et ceux qui viennent après, quand les émissions sont en direct. Quasiment toutes les associations radio organisent des réunions d'animateurs pour justement que les bénévoles se connaissent entre eux, mais visiblement ça n'est pas suffisant. Les dirigeants, eux, regrettent que les animateurs ne s'intéressent pas davantage au fonctionnement général de l'association radio. Et peut-être que les animateurs eux-mêmes regrettent que les dirigeants ne prennent pas suffisamment en compte leurs avis ou ne cherchent pas à les motiver davantage. Il y a énormément de travail à faire dans ce domaine. C'est pas simple parce que ça demande aussi du temps et des personnes, compétentes. Des personnes qui vont consacrer beaucoup de temps dans les relations humaines. Et il faut un minimum de compétences, faut pas être trop ours quand même, quoi.
Ben, ça peut se faire simplement, peut-être déjà par des petites choses comme des formations internes.
Oui, mais aussi, par exemple, dans les échanges avec d'autres radios, ça aide. En réalité, parce que même des participants issus d'une même radio vont se connaître étrangement à l'extérieur en participant par exemple à la couverture d'un festival de musique. Et ils vont y aller à 3-4 d'une radio et pas forcément des gens qui se connaissaient avant. Donc en se confrontant, en discutant avec d'autres animateurs bénévoles d'autres radios, ils vont se découvrir un peu mieux déjà. Donc ça peut aussi être une émulation que de se retrouver entre animateurs d'une même radio à l'extérieur. Et ça peut être aussi des formations de bénévoles. Encore faut-il que ce qui peut être aussi compliqué, c'est de trouver les créneaux horaires qui conviennent aux animateurs, sachant quand même qu'il y a des horaires de disponibilité qui peuvent être très fluctuants. Compte tenu des horaires de travail qui sont aussi, alors je sais pas trop, dans le Périgord, c'est peut-être un peu plus des heures de conventionnel, mais dans d'autres régions, les gens travaillent la nuit, le jour, et donc pour se rencontrer, c'est parfois compliqué.
C'est sûr, oui. Ben, très bien. Merci beaucoup, Dominique Vasseur, de tous ces éclairages. J'espère qu'on n'a pas été trop technique.
Au revoir.
Au revoir.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort, je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur, quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. C'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue. Celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend, s'il vous plaît. Regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, m'adoriez à genoux, me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. C'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.